everyone if we can take our seats.
Ginny au micro, je vous prie de vous installer aussi vite que possible. Nous sommes en train de manger le petit déjeuner et nous voudrions présenter notre premier orateur. Donc, on commencera d'ici 2 minutes.
So today we are going to have
Aujourd'hui, on aura, c'est l'invité de micro, le jour des unités constitutives ici à Alicante. Donc pour les nouveaux arrivants, c'est un jour qui vous permettra de trouver votre place au sein de l'organisation, de voir qui défend vos intérêts. On a différentes sessions des unités constitutives en parallèle, dont la plupart appartiennent à la GNSO. Donc vous pourrez trouver qu'est-ce qui vous intéresse à partir des sessions d'aujourd'hui, sachant bien sûr que les orateurs des différentes unités constitutives viennent nous adresser aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion de pouvoir considérer qu'est-ce qui vous intéresse et de reprendre cela plus tard en assistant à leur session et en discutant avec les personnes. Donc, le premier orateur aujourd'hui est Tapani. Tapani est le président de la NCG, qui est le groupe de parties prenantes non commerciales, groupe des représentants des entités non commerciales. Et nous essaierons donc de commencer tout de suite. Merci Tapani d'être venu. Tapani Tarwaininen prend la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Non? Bon. Je vais commencer et me mettre de pied pour le dire. Je me mets debout. Comme on vient de dire, je m'appelle Tapani Tarwaininen et je suis le président de la NCG, le groupe des représentants des entités non commerciales. Bien. Voilà mieux. Alors, ça a été suggéré que je mette des pyjamas pour venir, pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Mais bien sûr que non, j'ai mis ma cravate. Et pour que vous me voyez, lorsque vous rapprocherez de moi, vous allez voir que ma cravate a un code. Donc si vous arrivez à trouver quel est le code, vous serez accepté à l'ICAN. Merci. Alors, c'est quoi la NCG? C'est le groupe des représentants des entités non commerciales. Je n'ai pas de diapo à vous afficher, mais je veux tout simplement vous expliquer cela. Si vous regardez en haut de la page, vous allez voir qu'il y a une couche qui est celle de la GNSO, l'organisation de soutien aux noms génériques, qui protège les noms de premier niveau, comme le .com, par exemple. Et les nouveaux GTLD dont on vous parle tellement aussi. Et là, en dessous de la GNSO, vous avez deux chambres. La chambre des parties contractantes et la chambre des parties non contractantes. Et donc, je suis une seule branche qui est la chambre des parties non contractantes, qui sont les personnes qui n'ont pas de contrat avec les cadres. Les autres sont les registres. On n'entrera pas de là. Mais donc, dans la chambre des parties non commerciales, on a le groupe des représentants des entités non commerciales et le groupe des représentants des entités commerciales. Nous, on est celui des non commerciaux. Donc c'est ça la NCSG. On va vous rediviser la NCSG d'ici peu, mais vous allez voir que ces groupes ne sont pas aussi divisés. On avait la NCUC et la NPOC qui appartenaient à notre groupe, à la NCSG. Mais cette division n'est pas très claire, elle se superpose un peu. Et donc, assurez-vous de bien garder cela à l'esprit. Les deux travaillent ensemble parce qu'il y a même des membres de la NCSG qui n'appartiennent à aucun des groupes. Donc, ce n'est pas aussi clair, hein, c'est un peu confus. Quant à la façon dont cela fonctionne, les présidents de ces autres groupes vont venir vous voir pour vous expliquer cela. Mais en tout cas, la NCSG travaille sur la politique. On s'occupe d'essayer d'influencer la politique au niveau du groupe de parties prenantes. On est des conseillers auprès du conseil de la GNSO qui fait le travail plus dur. Et nous travaillons et collaborons, bien sûr, au sein de différents groupes de travail. Mais les présidents de la NPOC, de la NCUC, ne devraient pas vous dire que ce n'est pas la peine de travailler au niveau de l'unité constitutive. Il faut s'occuper des parties prenantes. C'est ça qui intéresse. La plupart de nos fonds sont dirigés aux unités constitutives, d'ailleurs. Donc, oui, c'est encore un peu confus. « Qu'est-ce que cette politique dont nous essayons de, sur laquelle nous essayons d'avoir un impact? Au sein de la NCG, ce qui nous préoccupe sont les utilisateurs non commerciaux, les organisations non commerciales. Donc les utilisateurs individuels, la vie privée, la liberté d'expression, les droits des consommateurs, des utilisateurs. Si vous vous enregistrez à titre personnel, c'est quoi vos droits? C'est ça qui nous intéresse. En même temps, les consommateurs peuvent être des titulaires de noms de domaine, c'est-à-dire les personnes qui enregistrent leur propre nom de domaine, qui consomment les noms de domaine, ce qui veut dire que dans votre rapport avec les registres et les bureaux d'enregistrement, vous seriez un consommateur. Et si vous aviez un nom de domaine que vous ne renouveliez pas et qu'il faudrait que vous repreniez, qu'est-ce que cela donnerait-il? Bien, si vous avez un nom de domaine, d'autre part, et que vous ne voulez pas que le reste du monde sache où vous habitez, vous serez intéressé par le processus du WHOIS, sans doute. Je pense que vous savez déjà un peu ce qu'est le WHOIS. C'est le système qui vous permet d'accéder aux données d'enregistrement. Et en ce moment, cela fait l'objet d'un processus de renouvellement. Et donc, par exemple, ça vous permettra de prévenir la fraude sur Internet, que de vérifier qui est le titulaire du nom de domaine. Mais peut-être que si c'est vous le titulaire, vous ne voulez pas que le reste du monde sache où vous habitez, comme je dis. Alors, c'est ça qui vous protège. Je ne vais pas donner d'exemple ici de compagnies qui n'ont pas agi correctement, mais on a un nom de domaine, Saks.com, par exemple, qui est protégé par la loi des marques déposées, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe du point de vue de la bureaucratie. Qu'est-ce qui se passe avec tout cela? C'est ça qui nous intéresse. Comme on dit, ce qui importe sont les détails. Donc peut-être que vous mettez en œuvre un système et puis il y a des lacunes. On a beaucoup de personnes au sein de l'ICANN, beaucoup d'unités constitutives, beaucoup de projets. Donc faites attention aux détails. Et c'est là qu'il nous faut des personnes. Des personnes prêtes à travailler avec nous, à vérifier quel est le détail qui pourrait être mauvais pour eux. Donc c'est ça qu'on veut faire. C'est de cela qu'on s'occupe. Je ne vais pas parler très longtemps de cela, mais je me rends compte que si je ne m'arrête pas et si je ne vous demande pas de me poser des questions, vous allez vous endormir. Donc sentez-vous libre de me poser les questions que vous voudrez me poser. Je vous poserai moi-même une question si nécessaire, et j'essaierai de vous répondre de mon mieux. Alors, c'est votre tour, et si vous ne prenez pas la parole, je penserai que vous avez tout compris, tout. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'assume que vous savez tout, et c'est à vous d'expliquer ce qui manque. Présentez-vous, s'il vous plaît, Dita Pani. Oui. On se présente toujours. Je suis du Nigeria. Je viens de l'unité constitutive des commerciaux. Et bien que j'ai pu résoudre un peu de cela hier, j'appartiens au secteur des organisations à but non lucratif. Je représente 2-3 organisations de ce type. Et j'ai ma propre société aussi. Donc j'appartiens aux utilisateurs commerciaux et j'ai fait ce programme de boursier en tant que membre de l'unité constitutive des commerciaux. Alors, quel serait le rapport entre les commerciaux et les organisations à but non lucratif? Comment s'intégrerait-elle? Y aurait-il un conflit d'intérêts? Tapani prend la parole. Oui, il y aurait un conflit. Vous devez définir ici, choisir. Si vous avez une société, vous n'êtes pas à but non lucratif. Vous ne pouvez pas appartenir aux deux groupes, des commerciaux et des non commerciaux. Donc si vous êtes un utilisateur commercial, vous ne pouvez pas appartenir à l'unité constitutive des non commerciaux. Hein. Vous trouverez peut-être que l'unité constitutive des utilisateurs non commerciaux, en fait, n'agit pas dans vos intérêts. Vous allez voir que ça ne vous intéresse pas, mais dans le principe, en tout cas, vous ne pourrez pas appartenir aux deux. Adetola du Nigeria prend la parole. Oui, mais lorsque je discutais avec le professeur Sam, il m'a dit que la plupart des membres sont des utilisateurs non commerciaux, mais qui sont plus intéressés par ce qui a lieu au sein du groupe des organisations à but non lucratif. Donc lui-même, il m'a dit qu'il a quitté le groupe des non commerciaux pour mieux représenter ses intérêts au sein du groupe des commerciaux. Donc, c'est ce que je me dis. C'est vrai, j'ai des intérêts commerciaux, mais il y a des personnes, des organisations à but non lucratif qui ont besoin que quelqu'un protège leurs intérêts. Donc, serait-ce un conseil que vous me donneriez? C'est ça que je veux savoir. Hein. Que devrais-je faire? Tapani prend la parole. Oui, je ne sais pas très bien comment le dire, mais la règle de ne pas appartenir aux différentes unités constitutives ou aux différents groupes de parties prenantes et le fait qu'on ne peut pas voter sur les deux côtés d'un conflit. On peut pas. Vous pouvez participer à la plupart du travail de toute façon, mais c'est à cause de cette histoire du vote que... Et en fait, je n'ai moi-même jamais vu ce type de différence entre les organisations. Je n'ai jamais trouvé la manière d'interagir avec les deux groupes. Mais il faut absolument que vous définissiez qu'est-ce que vous intéresse le plus. Comme je vous dis, la NCUC n'est pas le principal. Même si vous n'appartenez à aucune des deux chambres ou à aucune des unités constitutives, vous pourrez participer. Oui. Qui d'autre? Je suis Maritza Well. Quelle est la différence entre At Large et la NCUC? Merci. Tapani prend la parole. Oui, d'accord. Entre NCUC et At Large, on va le mettre un peu de côté, la NCSG. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré le président de ALAC, Alan Greenberg, hier. Oui, d'accord. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous a dit pour m'opposer à tout ce qu'il a dit, mais la NCSG se concentre plus sur les détails. Au sein de la GNSO, on se concentre sur les noms de domaines, les politiques surtout, et à large, que je sache en tout cas, je ne suis pas très fort ici pour expliquer ce que fait à large. Je n'appartiens pas à large, mais je pense qu'ils essaient d'intégrer les utilisateurs à large. À large est formé d'un nombre d'organisations autour du monde. Et la NCSG a des centaines d'organisations aussi. On a presque 500 membres, je crois. Et on est très répartis autour du monde, mais nous travaillons plutôt sur les politiques de la GNSO. Donc si vous voulez vous exprimer, qu'on vous entende, que vous voulez voter au conseil de la GNSO qui élabore les politiques et les recommandations de politique pour le fonctionnement de l'ICANN, ça va être plus centré sur ces aspects, le travail de la GNSO. Autrement, il faudrait que vous considériez le travail de chaque groupe de travail pour voir qu'est-ce qui vous intéresse. Un bon exemple serait peut-être... Navid prend la parole. Navid Benriz. La différence, en fait, à mon avis en tout cas, est que la NCUC ou la NCSG s'occupe de l'élaboration de politiques de GTLD ou de domaines de premier niveau générique. Donc c'est ça leur champ de travail. D'autre part, AtLarge protège les utilisateurs finaux en général et ils peuvent s'impliquer avec n'importe quoi dans le domaine de l'ICANN. Ils ne protègent personne parce qu'ils conseillent. Leur rôle est de conseiller, de faire des commentaires sur ce qui se passe et d'impliquer d'autres unités consultatives, d'autres organisations de soutien ou d'autres comités consultatifs pour les faire travailler, pour trouver ensemble la manière de protéger les droits des utilisateurs. Mais l'ANCSG et l'ANCUC ont un rôle d'élaboration de politiques et de commentaires au sujet des politiques liées au GTLD. Donc c'est ça que c'est ma manière de le voir. Tapani prend la parole. Oui, j'essayais de trouver des exemples qui n'appartiennent pas à la portée du travail de la NCSG. Donc les adresses IP. Peut-être que vous voulez bloquer un nom de domaine. Ça n'appartient pas à la NCSG. Si vous avez un nom de domaine qui est une extension géographique, un nom de domaine qui utilise un outil ou un code de pays tel que .fi pour la Finlande, ça n'appartient pas au travail de la NCSG parce que c'est le travail de la CCNSO. Mais les droits des utilisateurs dans le sens de ce qu'impliquent les noms de domaine de premier niveau, ça va appartenir à la portée de nos travaux. Donc si vous avez quelque chose à faire concernant votre nom de domaine ou vous voulez savoir quels sont vos droits concernant un nom de domaine d'un tiers ou si quelqu'un enregistre un nom de domaine qui a votre marque commerciale, marque déposée, on dira, c'est vrai que les utilisateurs non commerciaux n'ont pas souvent des marques déposées, mais si vous êtes une organisation à but non lucratif, vous aurez une marque déposée. Donc, on s'occupe des GTLD. Donc, le plus la portée est définie, le plus vous allez vous concentrer là-dessus. Mais dans la portée des politiques des GTLD, c'est la NCG qui s'occupe, en tout cas, c'est ça. Melissa Agüero prend la parole, merci. Alors, si j'appartiens à une organisation qui est une RALO, qui fait partie d'AtLarge, serait-ce possible qu'elle appartienne aussi à votre unité constitutive? Tapani prend la parole. Oui, dans ce sens, vous pouvez appartenir aux deux. On a différentes approches. Comme dans d'autres groupes multipartites au sein de la GNSO, vous pouvez appartenir aux deux. Mais AtLarge vient d'un autre domaine de travail. Donc, vous ne pouvez pas appartenir à plusieurs groupes de la GNSO, mais vous pouvez appartenir à la NCG et à la LAC. Et ça vous permettra de mieux vous concentrer sur vos intérêts au sein de chaque groupe. Merci. Merci, Maritza. Tapani prend la parole. D'autres questions? Oui, Amaury veut prendre la parole. Amaury Satcher prend la parole. Je m'excuse d'être en retard. Je suis membre de la NCUC. Je vous ai entendu parler des différences entre AtLarge et la NCUC. Il y a une différence, surtout, je ne suis pas sûre si vous l'avez présentée, mais je le signale parce que c'est une différence très importante et significative. La NCUC, en tant qu'unité constitutive au sein de la GNSO, voyez, la GNSO a la mission d'élaborer des recommandations de politique pour les GTLD. Les ALS, qui sont des structures AtLarge, font partie des RALO, des organisations régionales AtLarge, qui sont représentées au sein de la LAC, qui est le comité consultatif AtLarge. Donc la portée de leur travail est beaucoup plus large. Ah, est-ce que vous l'avez expliqué? Pardon. Tapani prend la parole. Oui, c'est à peu près ce que j'ai essayé d'expliquer. Amaury prend la parole. Oui, parce que la portée de leurs travaux excède les GTLD. Ils peuvent conseiller le conseil d'administration sur différents sujets, par exemple la sécurité et la stabilité, les numéros, les protocoles. Mais c'est clairement au-delà de la portée de la GNSO. Ce n'est pas ce que nous faisons. Donc c'est ça la grande différence aussi. Si votre organisation est une RALO ou est un membre et que la NCUC a un intérêt au sein de l'ICANN au-delà des GTLD, vous devriez aussi peut-être vous inscrire comme ALS. Mais si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la possibilité de voter ou de vous exprimer au processus de la NCSG, il va falloir absolument que vous deveniez un membre dans notre groupe de parties prenantes de la NCSG. Merci. Tapani prend la parole. Merci. Donc, il a expliqué autrement, mais c'est à peu près la même chose. Mais on sait qu'on a appris par la répétition. Donc, j'espère que ce sera plus clair maintenant. Y a-t-il d'autres questions du public? Quelqu'un qui se propose pour réexpliquer cela? Navid prend la parole. Oui, ce serait bien de mettre en valeur ou d'expliquer clairement comment s'intégrer aux discussions de la NCSG, comment appartenir au processus de la NCSG. Tapani prend la parole. D'accord, donc pour vous unir à la NCSG, il faut que vous déchiffriez le code qui est intégré au site web de la NCSG de l'ICANN. Mais bien sûr, toutes les informations sont sur le site web. Vous pouvez accéder à ncg.is, qui est un CCTLD en fait. Yes, mais c'est là que notre site web est hébergé. Donc c'est ncg.is et puis ncuc.org et npoc.org. Pour tous les cas, vous allez trouver les formulaires de candidature que vous devriez compléter pour vous unir à chacune de ces unités constitutives et chacun de ces groupes. Vous pouvez aussi attendre avant de vous unir à notre groupe. On a des processus indépendants, des principes indépendants, et la NCUC doit approuver les candidatures. Bien sûr, ils ont d'autres exigences pour l'adhésion. Donc, par exemple, les utilisateurs individuels ne peuvent pas s'unir à la NPOC. Ah, donc, notre site web est ncg.is. Hein, NCSG. Rappelez-vous de cela. Et ça vous permettra de voir le formulaire et qui vous demande d'expliquer pourquoi vous voulez vous unir à notre groupe, par exemple, etc. Donc, notre comité se réunit une fois par mois. Je suis le président du comité et de la NCSG. Et nous sommes intéressés à savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Et on veut vérifier que vous ne soyez pas un utilisateur commercial. Donc, rappelez-vous, ncsg.is. D'autres questions?
Tapani prend la parole. Tous les membres de la NCSG qui sont déjà membres, levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Navi aussi, vous devrez lever la main. Les restes, pourquoi pas? Pourquoi pas devenir membre? Ça ne coûte rien, mis à part le problème, le prendre le temps de remplir le formulaire. Avant, il fallait payer des frais, mais je pense que maintenant, c'est plus le cas. Et peut-être on peut vous demander des frais, même si, des sous, même s'ils l'ont jamais fait. Mais bon, on ne sait jamais. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Vous voulez prendre un café? Nancy, vous êtes intervenant dans la salle. Je voudrais faire une clarification. Je croyais que la NCSG, c'était au sein de notre... Est-ce que vous pouvez être membre de la MPOC ou de la NCSG? La panique prend la parole. Oui, pas seulement vous pouvez, vous devez. NCSG et les membres de MPOC, ils doivent d'abord être membres de la NCSG. Vous ne devez pas vraiment appartenir à l'un pour appartenir à l'autre. Il est possible d'appartenir aux deux. C'est une organisation qui vous qualifie pour appartenir aux deux. Ce n'est pas des parties différentes de NCSG, mais c'est différentes organisations qui opère, qui fonctionne au sein de la NCSG et que c'est superposé par moment. Si vous voulez, il y a deux petites boîtes dans une grande boîte et tout rentre dans la même boîte. Alors d'abord, vous pouvez poser votre candidature pour la NCSG d'abord et après à la MPOC NCUG. usé. Ça, c'est différent des les parties prenantes, du groupe de parties prenantes commerciales. À notre commentaire, à notre intervenant dans la salle, je serais très ajouter que l'organisation pour laquelle je travaille, c'est une façon de rentrer dans le monde du travail de l'ICANN, commencer à travailler par l'ICANN et de participer d'une façon très simple. Alors, je vous encourage à vous joindre à une de ces organisations. Tapani, merci pour les gentils mots que j'ai envoyés. Si vous n'êtes pas encore membre de la CNCSG, devenez membre, posez votre candidature de suite. Kammer. Aujourd'hui, c'est le jour de l'unité constitutive et nous avons aussi une autre séance de la NCSG dans l'après-midi. Je pense qu'il y a des séances de NCUC et MPOC, MPOC en même temps et vous ne pourrez pas assister aux deux, mais dans l'après-midi, vous pouvez venir à la séance de la NCSG. J'espère vous voir nombreux. On va se réunir aussi avec le conseil si vous voulez voir les gens importants, pour ainsi dire. Venez. J'ai encore 2 minutes, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être prendre une tasse de café et continuer après. Merci à tous. Merci Tapani. Jenny prend le micro. La machine à café marche plutôt bien, mais ne la pressez pas trop. Rudy, je voudrais pas vous presser non plus, mais on devrait peut-être continuer. Alors, nous avons déjà parlé un petit peu sur la NPOC parce qu'on a commencé avec les NCSG, mais bon, il va nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Rudy, vous avez la parole. Rudy prend la parole. Bonjour. Est-ce que vous êtes tous réveillés? Je vois certains visages que je reconnais déjà. Je suis très contente d'être avec vous ici encore une fois. J'espère vous voir plusieurs fois dans l'avenir. NPOC veut dire unité constitutive à but non lucratif responsable des questions opérationnelles. C'est pour ça qu'on l'appelle NPOC, pour les mots en anglais. Nous sommes encore la unité constitutive la plus jeune. En juin, nous allons fêter notre 5e anniversaire, ce qui veut dire que nous sommes encore un petit bébé qui commence à parler, qui commence à marcher, que nous sommes encore très jeunes et un groupe très petit. Mais quand même, nous avons aujourd'hui déjà 69 membres, qui est déjà pas mal. On peut encore s'améliorer et j'espère que vous allez nous joindre à cette équipe pour augmenter ces chiffres. Comme notre nom le dit, nous prenons soin des questions opérationnelles pour les unités constitutives à un nom lucratif, et ça c'est assez complexe. D'habitude, le nom de domaine a une valeur, et surtout pour les communautés commerciales qui ont beaucoup de valeur, parce que c'est la façon dont ils font leur travail. Pour une ONG, c'est différent. Mais nous avons découvert que pour la plupart des ONG utilisent les médias sociaux. La plupart des raisons qu'ils nous donnent, c'est qu'ils les font, le réseau social, qu'ils les font parce que c'est gratuit. Et c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand vous posez vos messages dans les réseaux sociaux, vous perdez la propriété de cela. Et d'autres peuvent utiliser vos informations, vos données intéressantes et obtenir de l'argent pour ça. Mais si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez réclamer la propriété de ce que vous êtes en train de publier. Et ça le rend différent. C'est pour ça qu'on est en train de travailler très dur pour une initiative appelée Pathfinder pour essayer de vous faire conscient du fait que vous pouvez être propriétaire des messages que vous publiez sur votre nom de domaine, que ça a une valeur et que le plus d'informations on peut. Le plus d'informations on aura, le plus de valeur ça aura. La crise économique ne vous aide pas parce que la plupart du temps, les bénévoles dans les ONG ne sont pas payés. Ils le font gratuitement. Comme on fait ce travail au sein de l'ICANN, on n'est pas payé, on est des bénévoles. Et nous savons très bien que demander aux bénévoles de faire plus de travail, de plus de bénévolat, c'est difficile. Cependant, si on ne le fait pas, la communauté de l'ONG ne pourra pas en profiter de cela. Alors, nous devons travailler un peu plus pour aider les ONG, les associations à but non lucratif, surtout dans les régions du monde qui sont en cours de développement. C'est essentiel de se concentrer sur la croissance économique et devenir plus important, plus durable. Et c'est pour le bénéfice de notre communauté. On essaye d'aider les ONG non seulement à comprendre le DNS, mais aussi pour comprendre la gouvernance de l'Internet et comment ils peuvent avoir une voix. Parce que si vous utilisez pas votre voix, personne ne va vous entendre. C'est simple comme ça. C'est pour ça que nous avons 4 réunions où vous pouvez vous exprimer. Et parfois, nous entendons certains commentaires que tout le monde est surpris d'entendre. Surtout des newcomers, des nouveaux venus, parce que c'est pas, vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser toutes ces vocabulaires. Nous avons besoin de votre contribution pour nous corriger là où il faut, surtout dans des périodes comme celle-là où nous avons la transition de l'IANA, des fonctions de l'IANA, qui a duré presque 3 ans. Ça va être bientôt peut-être accepté et mis en œuvre, et ça va nous permettre de continuer avec notre travail. Mais c'est comme ça que l'ICANN avance, évolue. C'est pas nous qui contrôlons le monde, c'est le monde qui nous contrôle. Et je pense que c'est très intéressant de faire partie de l'ICANN. Moi-même, je ne suis pas un nouveau arrivant, moi-même. J'ai passé 11 ans déjà à l'ICANN. Je suis le cofondateur de la communauté à large, à LAC. Je suis le cofondateur de à large Euralo. J'étais PDG à Lisbonne. La cérémonie a été retardée de 2 heures. La presse était déjà presque partie parce que on avait un débat sur le triple X. Et à la fin de la cérémonie a eu lieu, mais nous avions passé beaucoup de temps à débattre sur ceci et la faillite n'est pas se faire. Je crois que Alain Grimbard, hier, vous l'avez entendu parler sur Adlarge. C'est une communauté très intéressante. Autrement, j'aurais pas passé 7 ans de ma vie. C'est différent de ce que nous on fait. Adlarge, c'est un comité consultatif qui donne un avis sur la politique et probablement vous savez que cet avis, normalement, il n'est pas obligatoire ou contraignant. Et on est en train d'élaborer les normes et les politiques et c'est ça qu'on fait et ça c'est contraignant et c'est ça qui est différent. C'est là où on ne peut pas, en tant qu'organisation, être membre de à large et faire du travail consultatif, donner des avis, mais vous pouvez aussi être dans l'organisation qui s'occupe de l'élaboration des politiques parce que vous êtes intéressé à y participer. Et les politiques, ça veut dire la participation dans d'autres groupes de travail, explorer d'autres normes, d'autres règles qui peuvent être mises en œuvre. Amar est un des exemples que l'on peut voter dans des propositions qui sont sur la table en discussion dans les GNSO, la GNSO. Il est aussi meilleur que moi, mais il n'est pas plus jeune que moi. Il y a différents endroits où nous pouvons redire au micro. C'est très important de savoir quel est votre intérêt, ce que vous aimez faire et faire du travail bénévolat. Il faut savoir ce qu'on aime faire. pour pouvoir le faire mieux et plus vite. Si vous êtes intéressé à faire de travail consultatif ou de donner des avis, l'accès à l'arche d'endroit. Mais si vous voulez définir qu'est-ce qui est le futur des DNS, vous devez vous joindre à nous, à notre groupe, et on peut le faire comme NCSG, comme Tapani a expliqué, être un membre individuel dans les NCUC, à MPOC, vous devez être une organisation, vous devez être membre d'une organisation à but non lucratif, autrement, on ne peut pas accepter votre candidature, et on sait que ce n'est pas si simple de faire ceci, c'est plus simple de s'inscrire en tant qu'individu, de façon individuelle. On a des personnes en NCUC et ils peuvent encore venir discuter avec nous à NPOC. Il n'y a pas de limite dans ce que vous faites. On est en train de donner la bienvenue à beaucoup ceux qui ont une voix, une opinion, des choses qui doivent changer à l'ICANN, surtout dans notre communauté, comme on est une jeune communauté. Parfois, on a besoin de certaines corrections, d'un guide, une orientation pour qu'on nous dise ça, c'est pas une bonne façon de l'aborder, c'est pas une bonne approche, ça aide pas la communauté, ça aide pas les organisations à but non lucratif. C'est pour ça qu'on vous demande de nous joindre dans cette réunion aujourd'hui qui commence à 9h30 jusqu'à 1h de l'après-midi. Et vous avez on va avoir certaines visites, personnes qui vont nous visiter, des invités comme Xavier Calvez, et PDG des CFO de l'ICANN, qui va nous expliquer quelles sont les exigences spéciales pour le budget, quels sont les critères, comment ils sont mis en œuvre, et c'est ça, quelles sont les demandes et quelles sont les initiatives spéciales, et on a besoin de savoir comment ça marche et comment, au sein de l'ICANN, comment ça fonctionne. Larissa Cornec va nous expliquer comment ça marche, parce que peut-être pas tout le monde comprend. Et Amar et moi-même, nous avons en train de... Et on porte déjà notre badge des review enthusiastes, fans de la révision. Larissa va nous expliquer qu'est-ce que le processus de la révision. C'est très intéressant, je vous conseille d'y aller. Les révisions de l'ICANN se passent presque tout le temps, elles ont lieu presque tout le temps. Il y en a une RTRT2 pour l'ICANN, vous allez voir qu'on est fan des sigles. N'ayez pas peur si vous ne comprenez pas tout, parfois c'est vraiment très difficile. Et parfois j'invente des acronymes des sigles moi-même. Et parfois, je dois dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, je vois quelqu'un qui a une question. Nadira, au micro, je voulais demander pourquoi MPOC n'est pas ouvert seulement aux membres des organisations et non aux membres individuels, comme NCUC. Rudy prend le micro. C'est à cause de notre charte. MPOC a été créé. Malheureusement, la personne qui l'a créée est décédée il y a quelques années. En fait, un an après avoir créé NPOC, c'était une grande personne. Et quand ça a été créé, ça s'était consacré sur le monde des associations à but non lucratif. Et ça couvrait déjà les individus. Il n'y avait pas besoin de créer un autre organisme qui avait aussi les individus, pendant qu'on était encore dans les NCSG. Il n'y avait pas... Ça n'avait aucun sens. Et dans les règles du monde à but non lucratif, on ne peut pas permettre aux individus d'avoir une voix plus importante que celle de l'organisation elle-même. Et c'est pour ça que c'est assez difficile si vous souhaitez trouver une position équilibrée entre cela, c'est assez difficile. C'est ce qu'on est en train de discuter dans la NCSG et ce que l'EMPOC a abordé. Si on a des individus au sein de la NCSG, c'est plus grand que le nombre des organisations. Ça veut dire que les individus, en fait, sont en train de décider pour les organisations, et ça, c'est pas vraiment juste. Ça, on peut avoir une discussion qui n'est pas vraiment équilibrée. Nadira au micro, est-ce que vous croyez que les membres qui peuvent voter, qui souhaitent servir, la question n'a pas été complétée. À notre intervenant au micro, je souhaiterais clarifier quelque chose. Si au-dessus du vote, nous avons des individus et des organisations, c'est un vote qui a plus de poids. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de trouver l'équilibre. Je vais parler de ça plus en détail plus tard. Génie au micro, bien sûr, allez prendre un café, il n'y a pas de problème, vous revenez. Quand vous voulez, je comprends tout à fait qu'on a besoin d'un café à cette heure-là. Génie toujours au micro. Rudy prend la parole. Peut-être c'est une bonne idée de reviser notre processus pour pouvoir que les gens puissent nous joindre en tant qu'individus, mais c'est un processus assez long de reviser la charte et qu'elle soit encore approuvée. C'est un travail qui peut durer peut-être quelques années même, et c'est pour cela qu'on n'est pas en train de se concentrer sur ça maintenant. Je pense que c'est très important que puisse parler pour les organisations et en tant qu'organisation, et c'est très important qu'on n'ait pas des voix individuelles et qui peuvent être entendus, parce que c'est dangereux de ne pas écouter les organisations et les ONG. À la fin, c'est ça le but. À notre intervenant au micro, je pense que c'est une espèce de retour d'expérience. J'étais intéressée dans les NPOC. Qu'est-ce que c'est que les NPOC? Mais les mondes des buts non lucratifs, l'ICAN étant une organisation à but non lucratif, parfois, ça peut être très hiérarchique. Et parfois, peut-être, il y a un programme qui est dans le cadre de l'ICAN qui n'est pas nécessairement la personne qui a une influence au sein de l'organisation pour que l'entité soit représentée. La tendance est que ça soit représenté par la NCO et peut-être c'est pas l'endroit approprié pour eux. Alors ma recommandation, c'est que ça aille au-delà des individus au sein de l'ICAN, mais qu'au niveau de leadership des ONG, que eux ils puissent peut-être il y en a qui beaucoup d'entre eux qui savent même pas qu'est-ce que c'est l'ICAN. Alors que leur demander que l'organisation se joigne, c'est assez difficile de leur demander ça. Rudy prend la parole. Vous pourriez être parfaite pour l'EMPOC parce que vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. C'est une bonne proposition. Vous avez raison, c'est beaucoup de travail. On est en train de travailler dans la sensibilisation tout de notre mieux. On est en train de parler avec la structure de l'ICAN qui est responsable de la sensibilisation pour nous aider à passer le message. Mais c'est pas très facile. J'étais dans le sommet des gens l'année dernière. Et d'abord, nous avions 3 ou 4 membres qui sont surgis de ce sommet. Parce qu'en Afrique, on sait très bien que, à mon avis, c'est la seule région qui a un futur, un avenir dans cela. Je viens de l'Europe et en Europe, on est à un niveau où la croissance va se stagner, il y aura plus de changements. Mais vous devez, les économies de vos pays doivent être maintenues. Les organisations à but non lucratif, c'est très important pour elles d'avoir leur propre économie et c'est important pour vous devez créer votre propre durabilité. Et c'est pour ça que c'est important pour une ONG, en tant qu'ONG, de devenir un organisme important dans tout le travail qu'on doit faire. Et c'est pas si facile de convaincre une ONG de joindre NPOC. Comme j'ai dit, la plupart d'ONG se basent sur le travail du bénévolat et leur demander de faire encore plus de bénévolat, plus de travail en tant que bénévole, c'est pas facile. Surtout pour les jeunes, qu'on comprend que vous avez d'autres critères dans la vie. D'abord, avoir un bon travail, avoir une famille, avoir une maison. Ça, c'est vos priorités, on comprend ça bien. Travailler pour ICANN gratuitement, ce n'est pas votre priorité, on le comprend. Mais vous n'êtes pas obligé d'y passer tout votre temps. Vous pouvez nous aider en participant dans des groupes de travail. Le plus que vous pouvez, et vous pouvez y consacrer le temps que vous souhaitez ou que vous avez. Et il y a des problèmes, on doit être conscient de cela. Amar, vous aviez levé la main? Pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou des commentaires? Un autre intervenant au micro. Qu'est-ce que l'activité de sensibilisation que vous êtes en train de chercher pour augmenter le nombre de participants dans les groupes? Parce que, Navi au micro, est-ce que vous pouvez spécifier vos noms? Je suis Rita Chaudhry. Ma question est, Rita Chaudhry, comment vous souhaitez participer à la participation, surtout dans les nations, surtout sur les ONG qui sont en train de travailler et ils ne sont pas au courant du travail que vous faites? Rudy prend la parole. Nous allons commencer par la mise en œuvre d'une initiative qui s'appelle Pathfinder, où on essaye de créer la conscience au sein des ONG, et on est en train d'organiser des séminaires web où on explique à chaque fois une partie des DNS pour essayer que les gens comprennent que c'est important, qu'on est en train de sortir au monde, de faire une sortie dans le monde où il y a des événements, où sont les ONG, où se trouvent les ONG. Et comme on n'a pas des fonds pour ceci, on doit trouver nos propres fonds. Avec d'autres ONG, on essaye d'être en contact avec les autres ONG. Et moi, je l'ai payé, par exemple, de ma propre poche, moi-même, parce qu'on n'a pas les mécanismes budgétaires pour l'IMPOC. Nous devons travailler dans le contexte de l'ICANN, au sein de l'ICANN. On doit trouver la façon de faire la sensibilisation qui ne soit pas trop chère, parce que nous, on est conscient que c'est pas si facile. On a réclamé pendant des années que les ONG ne viennent pas aux réunions de l'ICANN parce que c'est trop compliqué et parce que souvent c'est très cher. Et c'est pour ça que ça a été créé le programme de boursier pour vous permettre de venir. Sinon, autrement, vous seriez pas là. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de convaincre l'ICANN qu'on a besoin de plus d'efforts au sein de l'ICANN pour faire la sensibilisation. Ils ont une stratégie qu'ils sont en train d'essayer de déployer. J'ai proposé que nous, en tant que communauté, on commence à créer notre propre sensibilité au niveau intercommunautaire pour voir, et c'est ce que l'ICANN essaye de proposer et de faire, parce que ce n'est pas facile de faire participer les NGO. C'est nous qui devons aller vers les ONG et pas à l'inverse. C'est pour ça qu'on le fait à chaque fois qu'on a l'occasion d'assister à une réunion, cette sensibilisation, et aller plus vers la région africaine, parce qu'à notre avis, c'est la région là où on doit faire le plus d'efforts de sensibilisation pour qu'eux puissent comprendre que c'est important. Et vous avez vu les showcases, vous avez démontré que c'est important, sinon vous ne seriez pas là. Mais c'est difficile d'aller vers les ONG, les trouver, et qu'on puisse réunir assez d'ONG autour de la table pour pouvoir débattre. C'est une très bonne question. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, très bienvenues. Parce que nous ne pouvons pas réinventer la roue nous-mêmes. Rita au micro. Rita au micro. Il y a des bureaux et des gens de l'ICANN où il y a des régions. Est-ce qu'ils peuvent être mobilisés pour faire plus des activités de sensibilisation dans cette région? Parce que chaque membre de la communauté qui ne sont pas à table pour décider, prendre les décisions au sein de l'ICANN, il doit y avoir une sensibilisation en termes de que eux puissent comprendre la valeur, pourquoi ils doivent être présents à table. Il y a beaucoup qui sont connectés et qui écrivent des rapports et que même après 10 ans, les 65-70% dans ce monde va être connecté et qui n'ont pas de connexion. Et je pense que ça fait peur quand on parle d'Internet pour tous. Rudy au micro, on va essayer de convaincre tout le monde, les gens dont vous avez parlé. L'ICANN va vers les ONG. Vous voyez les personnels d'une grande organisation et on ne nous voit pas en tant que ONG. C'est pour ça que notre mission est plus importante. C'est les ONG qui parlent aux ONG et une très grande entreprise latino-américaine qui va vers les ONG, qui parle aux ONG. Et c'est ça, c'est le gap qu'on doit faire. Rita Micro, oui, pour les communautés locales, une seule personne ne pourrait pas le faire, mais il faut qu'il y ait un mécanisme qui soit développé pour que ça marche. Non seulement pour toutes les parties prenantes. Rudy au micro, oui, on est en train de travailler cela avec Terry Camin, qui est proche au gouvernement. Et on a discuté, on est en train d'essayer d'aller vers le gouvernement dans un pays et demander au ministre de rassembler les ONG. Et nous, on va proposer la discussion, le débat. À l'avantage de ces ONG. Et si on peut faire ça, ça va être une situation gagnante-gagnante. Le gouvernement peut en bénéficier, et les ONG aussi, et les candidats aussi, qui peuvent se joindre à notre structure. Mais merci beaucoup pour les idées. C'est exactement ça dont on a besoin dans nos séances, pour que ça puisse nous aider à avoir des nouvelles idées.
Oui, je suis Adetola Sokbesan du Nigeria. Merci, Rudy. Avant que vous arriviez, en tout cas, on discutait de la possibilité d'appartenir à l'unité constitutive des entités commerciales et à l'unité constitutive des non-commerciaux. Et ce que je pense en ce moment, c'est que la plupart des organisations commerciales ont un CSR à travers lequel ils sont liés aux ONG. Donc, serait-ce possible de travailler avec le groupe des représentants des entités commerciales pour ces efforts de CSR? Parce que pour la plupart des cas, les CSR sont liés aux organisations et aux activités des organisations non gouvernementales. Donc, au bout du compte, on trouve que les organisations à but non lucratif appartiennent à l'unité constitutive des représentants des entités commerciales. Mais on m'a dit que ce n'était pas possible d'appartenir aux deux. Mais moi, je veux appartenir aux deux parce que je fais partie de 3 ONG différentes. Et j'ai ma propre société. Je travaille sur la fondation d'une école qui est à but non lucratif dans mon pays. Donc, en tant qu'institution, même si on est à but lucratif, il faut payer des taxes. Mais si on est constitué en tant qu'organisation à but non lucratif, on est exempté. Donc, on ne peut pas tirer des profits de cette organisation ou de ce projet. Et moi, j'ai des activités commerciales en même temps pour vivre. Donc, je veux savoir comment je m'intégrerai à cet environnement avec mes deux intérêts. Rudy Van Snick prend la parole. Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le plan de sensibilisation actuel, on a reçu un plan que l'ICANN nous a attribué. Mais ce que je suggère serait que l'on fasse un travail intercommunautaire. Il faut que l'on considère nos travaux de sensibilisation et qu'on le fasse ensemble. J'ai discuté avec Marilyn Cade, que vous connaissez peut-être. Je m'appelle Marilyn Cade, elle dit souvent, moi je ne m'appelle pas comme ça. Et vous voyez qu'il y a des points communs entre nos actions. On a tous un but commun qui est d'impliquer les personnes à l'ICANN. Et on peut toujours s'aider, s'envoyer de nouveaux membres, intégrer de nouvelles voix. Donc il faut que l'on aille au-delà de nos frontières en tant qu'organisation. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide de l'unité des représentants des entités commerciales, par exemple, parce qu'ils ont plus de ressources que nous, bien sûr. Et lorsqu'ils invitent des personnes, leurs clients pourraient être des ONG, comme vous dites. Et c'est ce qu'on essaie de voir. Peut-il y avoir un accord concernant notre approche pour la sensibilisation pour ne pas répéter les efforts pour arriver à un même but? Ça n'a aucun sens. On n'a pas suffisamment de temps et on n'a pas suffisamment de fonds. Donc on essaie de voir s'il serait possible de travailler sur une initiative intercommunautaire qui permette aux membres de s'unir à nous indépendamment de leur origine. Ça nous donne plus de valeur, voyez. Adetola prend la parole et je pense aussi au bureau d'enregistrement. Par exemple, s'ils ont des initiatives qui encouragent les ONG en tant qu'organisation à but non lucratif et ils encouragent leur adhésion au site web, qu'ils aient leur propre nom de domaine plutôt que d'utiliser Gmail ou Hotmail. Et donc, ils disent, bon, si je vais avoir un point quelque chose, pourrait être au point Malawi, point NG, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait un travail de promotion qui encourage les organisations à but non lucratif. La plupart de ces organisations existent pour des causes qui ne sont pas tout à fait positives. Donc, on travaille sur cette activité pour trouver un équilibre entre tous ces intérêts. Donc, peut-être qu'on devrait contacter les utilisateurs pour qu'ils nous aident à définir cela. Rudy prend la parole. Oui, certainement, mais cela implique beaucoup de travail. On ne peut pas tout faire en même temps. Au sein de notre unité constitutive, nous essayons d'apporter une clarté à cela. Nous prenons des décisions concernant le travail d'élaboration de politique, qui est notre travail principal. Ne l'oubliez pas, notre travail n'est pas la sensibilisation. Notre mission principale, qui est déclarée dans la charte, est le travail de politique. Et le travail de politique est pour la communauté, avec la communauté. Il faut qu'on travaille ensemble, et ce n'est pas facile. J'ai une autre question. Oui, je suis tunisien, je m'appelle Hamza Benmerez. On a dit tout à l'heure que la discussion concernant les droits de l'homme à l'ICANN est assez mûre en ce moment. Est-ce qu'elle vous semble pertinente? Croyez-vous qu'on va discuter davantage de cette question avec les structures de la NCG, par exemple, pour ce qui est de l'amélioration du renforcement de la responsabilité dans le cadre de la transition de la supervision des fonctionnaires? Rudy prend la parole. C'est une question qui nous prend du temps. Il faut du temps pour la discuter. Ce que je crains est le fait que les droits de l'homme pourraient permettre à l'ICANN de prendre des décisions améliorées et renforcées sur certaines situations, mais moi, je ne peux pas juger ça moi-même. L'ICANN doit s'éloigner des décisions qui ne respecte pas sa mission, qui est celle du DNS. Si l'ICANN commence à faire un jugement ou à donner des appréciations concernant les droits de l'homme au niveau de l'espace de notre domaine lui-même, elle risque d'entrer dans le domaine des contenus. Et il faut établir une séparation entre les deux. Pourvu qu'il n'y ait pas de contenu impliqué, il n'y aura pas un problème. Mais si on commence à entrer dans le terrain des contenus, on aura des problèmes. À l'heure actuelle, on n'a pas de problème. On a besoin de mettre en œuvre des droits de l'homme parmi les mécanismes de l'ICANN. Mais du côté du produit, c'est assez risqué. Il faut qu'on s'éloigne de cela. Il faut qu'on n'entre pas dans ce terrain parce que l'ICANN pourrait risquer de se voir engagée dans des situations qui ne sont pas bénéfiques pour elle. Ginny prend la parole. Merci beaucoup. Dans la présentation que nous avons fait circuler avec le programme, tous ces liens vous amènent directement au site web de chaque unité constitutive, donc de la NCG, de la NPOC et de la NCUC aussi. Je suppose, comme je l'ai fait pour tous les autres intervenants, que si les boursiers vous voient dans les couloirs, ils peuvent vous arrêter, vous poser des questions, si besoin. Oui, Rafik, restez dans la salle. Oui, c'est vrai, dit Jenny. Merci, Rudy. Ici, à ma gauche, j'ai le prochain orateur qui viendra présenter la NCEC, qui est Rafik Damak. Rafik, vous avez la parole et je vous remercie d'être venu. Rafik Damak prend la parole. Merci, Jenny. Je m'appelle Rafik Damak. Vous pouvez m'appeler Rafik, c'est plus facile. Étant donné que nous sommes au Maroc, je vais parler un peu en arabe. Comme sparir. Ça veut dire bonjour, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Maroc, c'est tout. Ces deux dernières journées, vous avez beaucoup entendu parler de la GNSO, des groupes de parties prenantes, des unités constitutives. Vous êtes peut-être un peu confus en ce moment. Donc aujourd'hui, je parlerai de la NCEC, qui est le nom de l'unité constitutive des entités non commerciales, qui a été formée depuis le début de l'ICANN. Cela fait plus de 16 ans, je crois. En tant qu'unité constitutive, nous représentons les utilisateurs non commerciaux. Donc cela comprend les individus et les organisations. On a des associations à but non lucratif, des fondations, des académiciens, et on a également des individus. Depuis la fondation de la NCEC, on a toujours défendu les droits de l'homme, la vie privée, la liberté d'expression, les problèmes de développement dans le cadre de la politique de la GNSO, ce qui veut dire que nous essayons d'inclure cette nouvelle dimension lorsque les politiques sont formulées au sein de la GNSO. Et donc, au bout de compte, nous avons une grande influence sur les politiques concernant les noms de domaine. Par exemple, on a beaucoup travaillé il y a quelques années avant le lancement des nouveaux GTLD. Je ne sais pas si vous avez participé à la session des nouveaux GTLD hier, mais j'avoue que nous avons beaucoup travaillé pour faire le soutien pour les candidats de pays en développement, ce qui veut dire que les candidats de l'Afrique ou de l'Asie auraient la possibilité d'accéder à ce fonds de soutien financier et ils pourraient également présenter des candidatures pour des nouveaux GTLD. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit parler après moi, donc j'accélère. On est un groupe divers, non seulement en termes régionaux et de genre. Pour nous, cela est habituel. Mais moi, je suis africain, je viens de la Tunisie. Et je suis membre de la NCEC. Dans d'autres groupes, cela n'est pas le cas. Je suis probablement le seul président non occidental au sein de la GNSO. Nous avons également une diversité au sein de notre comité exécutif parce qu'on a des personnes qui représentent chaque région. Donc on a des représentants des 5 régions. La NCEC, ils ont des exigences de la représentation géographique et de genre. Et pour nous, c'est un engagement de diversité qu'on a parce qu'on appartient à la NCEG et on essaie d'intégrer davantage de pays africains. Je vois plusieurs Africains ici parmi nos membres. J'ai Navid qui appartient à notre groupe, travaille sur la sensibilisation et la participation des membres existants. Et c'est un travail important, on parle beaucoup de sensibilisation. Mais la civilisation est un moyen. On essaie d'intégrer davantage de personnes. Et l'année dernière, d'ailleurs, on a fait beaucoup de travail. Mais ça ne s'est pas suffi. Ce n'est jamais suffisant. Mais ce qui est important, c'est de faire participer les personnes qui sont déjà des membres au sein du groupe. Parce qu'ici, au sein de l'ICANN, on parle de sensibilisation, mais on parle de modèles multipartites, des multiples parties prenantes. Et donc, l'important est d'impliquer les personnes qui ont différentes trajectoires, différents intérêts, qui participent à la formulation de politiques. Ou par exemple, en termes de responsabilité, c'est ça qui est important, parce que c'est là qu'on pourra avoir un impact. Nous avons plusieurs membres qui participent à différents groupes de travail et nous essayons d'apporter davantage aux membres, surtout de ces groupes et surtout aux nouveaux arrivants, que nous essayons de soutenir avec nos conseils ou leur donnant nos orientations, nos lignes directrices de comment participer. Donc, si vous vous joignez à nous, vous allez voir qu'on vous donnera l'aide et le soutien pour vous permettre de participer au processus d'élaboration de politique de l'ICANN. Parce que c'est là que vous pouvez avoir une influence. Vous êtes ici peut-être pour votre première ou deuxième question de l'ICANN et vous sentez que tout est fait ici. Mais la réalité est que la plupart du travail se fait entre réunions publiques, à travers des appels sur les listes de diffusion, par exemple. Donc, si vous rejoignez un groupe comme le nôtre, par exemple, vous allez trouver des personnes qui vont vous aider, vous conseiller, qui vont vous aider à naviguer le site web de l'ICANN, qui est assez compliqué, et à trouver des informations qui vont vous expliquer le contexte, l'historique. C'est ça qui est important à l'ICANN. Par exemple, Hamza avait une question concernant les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont très importants pour l'ICANN. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de secteurs de la communauté qui sentent toujours que l'ICANN ne devrait pas s'impliquer dans ce domaine. On est un peu dérouté dans ce sens. L'ICANN élabore beaucoup de politiques qui ont un impact sur les droits de l'homme. Ce que nous disons est alors que l'ICANN ne doit pas être un groupe de défense des droits de l'homme. Ce n'est pas dans sa mission. Plutôt, l'ICANN, au moment d'élaborer des politiques, doit au moins évaluer si cette politique aura un impact ou si elle manque aux droits de l'homme ou pas. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez entendu parler des politiques de contenu, mais la réalité est que l'ICANN est impliquée avec cela, surtout avec les registres et les bureaux d'enregistrement qui reçoivent beaucoup de pression des gouvernements, des agences d'application de la loi, qui leur exigent d'agir. Donc, il est mieux de parler des droits de l'homme pour créer des sauvegardes, des garanties qui nous permettent d'arriver à un équilibre pour que l'ICANN n'ait pas à créer des politiques concernant les contenus. C'est peut-être une zone grise à laquelle l'ICANN est impliquée, mais on espère que les droits de l'homme et nos travaux dans ce domaine vont nous permettre de ne pas entrer en conflit avec cela. Il y a eu une session hier avec une équipe de travail spécial intercommunautaire chargée des droits de l'homme où on a eu de nombreux membres du groupe qui ont participé pour essayer de collaborer avec le reste de la communauté dans ce domaine. Cela fait 8 minutes que j'ai commencé à parler et c'est peut-être le moment de répondre à vos questions. Je suis là pour cela. Oui ? Ginny prend la parole. On a eu du mal avec la machine à café, mais elle fonctionne maintenant. Elle est réveillée. Rafik prend la parole. Il faut prendre du thé vert ici au Maroc. Hein. On ne boit pas du café, Ginny. Vous êtes au Maroc. Oui, c'est d'accord, dit Ginny. Mais en tout cas, on avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de café ce matin. Et ce groupe a beaucoup participé jusqu'à présent. Donc, on va leur demander de vous poser leurs questions. Je peux choisir quelqu'un, hein. Je vous présente bénévole. Merci Rafik. Une personne non identifiée prend la parole. On a des personnes ici dans la salle qui viennent des différentes régions et qui veulent s'intégrer à votre unité constitutive. Pourriez-vous leur expliquer quel est le processus pour s'impliquer, pour participer, pour s'unir à votre groupe? Quelle est la mission qu'ils devraient respecter lorsqu'ils s'unissent à l'unité constitutive de la NCUC? Rafik prend la parole. Oui, la NCSG et la NCUC sont faciles à rejoindre. Ce n'est que question de compléter un formulaire en ligne où on vous demande d'indiquer quel est votre intérêt non commercial. Parce qu'il est important de prévenir qu'il y ait des membres qui viennent du côté commercial ou de l'industrie. Nous sommes un espace pour la société civile, pour les organisations à but non lucratif, pour les activistes, les académiciens, pour les personnes qui veulent discuter de politique. Vous trouverez donc le lien pour vous unir à nous sur notre site web, compléter le formulaire et cela impliquera que vous voulez rejoindre la NCUC. Ça va vous prendre 5 minutes. Et puis, au niveau de la NCUC et de la NCEG, on décide qui est approuvé pour que vous deveniez membre. À partir de ce processus, on va vous envoyer un message de bienvenue avec des documents, des informations. Je pense que N'importe qui se joigne à l'ICANN va devoir surmonter un défi qui est le fait de comprendre ce qu'ils peuvent faire, quels sont les sujets qui les intéressent. Donc mon conseil est que si vous vous joignez à la NCEC, il faudrait que vous vous concentriez sur les politiques des GTLD, qui sont notre domaine d'intérêt. C'est là qu'on se concentre. Vous pourrez trouver une liste de groupes de travail, par exemple. Et je ne dirais pas que une fois que vous vous inscrivez à un groupe, vous serez automatiquement actif. Vous pouvez vous joindre à un groupe pour l'observer, pour voir quelles sont les dynamiques, comment cela fonctionne, parce qu'il y a des règles selon lesquelles les groupes de travail opèrent. Des fois, ils ont des appels 2 ou 3 fois par semaine. Et cela implique beaucoup de travail de rédaction. Alors, vous aurez la possibilité d'observer, de comprendre la dynamique et les sujets qu'ils discutent, et après vous impliquer. C'est ce qu'on fait au sein du groupe de travail concernant l'enregistrement et les services d'annuaire des données d'enregistrement, qui est le nouveau WIS ou pas, en fait. On a un membre qui s'est impliqué à ce processus et qui y participe, et c'est différent d'obtenir les informations, c'est difficile. On ne comprend pas toujours ce qui se passe au sein de ce groupe. Nadira prend la parole. Ma question est liée au fait qu'au sein de l'ICANN, avec les différentes unités constitutives, on suit une approche ascendante. Mais je trouve qu'elle n'est pas tout à fait verticale et je voudrais savoir quelle est l'approche horizontale pour les membres qui s'unissent à la NCEC. Qu'est-ce que vous faites pour les membres eux-mêmes sans devoir remettre cela à un niveau supérieur? Est-ce que vous réunissez uniquement pour l'élaboration de politiques ou pour faire des recommandations? Ou alors avez-vous d'autres activités? Rafik prend la parole. Oui. Au sein de la GNSO, on s'occupe des politiques, on représente les utilisateurs non commerciaux et nous sommes un des groupes qui s'occupe de cela, mais on n'a pas suffisamment de ressources lorsqu'on se compare au secteur de l'industrie, par exemple, qui a des millions de dollars pour avoir une influence sur la politique. On travaille beaucoup pour faire participer nos membres. Moi, en tant que président, je passe la plupart du temps à faire des tâches administratives. Je réalise des tâches telles que la rédaction de mise à jour. J'essaie de gérer l'adhésion. Je prévois nos travaux pour cette réunion. Donc, je suis un bénévole, hein, mais je fais beaucoup de travail. Navid, par exemple, s'est uni à notre groupe. Il participe à une équipe où les membres essaient de fournir différentes recommandations concernant la manière de plus s'impliquer, de participer plus. On discute des intérêts et des défis des membres. On a beaucoup grandi ces dernières 5 années en ce qu'est la quantité d'adhérents, mais on veut être plus divers. On veut avoir plus de membres venant des petites îles, des nations insulaires. Donc il faut que l'on comprenne un peu mieux quelle est l'attente des personnes qui s'unissent à nous. Parce que ces attentes évoluent. Lorsqu'on a de nouveaux membres, on a de nouvelles attentes, on a différentes manières d'interagir. Donc, par exemple, dans ma génération, on utilise beaucoup Skype, mais je pense que les nouveaux arrivants, les plus jeunes, utilisent FaceTime, par exemple, et WhatsApp. Et les gens ont la possibilité de travailler ensemble. Ils choisissent un sujet sur lequel ils travaillent pour fournir des versions préliminaires, des recommandations, etc. Si on continue suivant ce même fil de pensée, on a aussi travaillé avec d'autres groupes. Des fois, par exemple, pour le soutien des candidats, on a travaillé avec la LAC. On a trouvé un point commun entre les deux. Lorsqu'on identifie un point commun avec notre groupe, c'est comme ça qu'on œuvre. Nadira prend la parole. Oui, je reprends en fait. Parce que j'ai vu que lorsque je préparais mon programme, qu'il y avait un problème de bénévoles au sein de l'ICANN, un problème de recrutement, parce que comme Rudy l'a dit, après un certain temps, les bénévoles partent, ils arrêtent de participer. Et je me demande pourquoi, ce n'est pas seulement pour une cause, je pense. Et en fait, les bénévoles doivent trouver un avantage pour eux-mêmes, voir quel est le bénéfice qu'ils peuvent tirer, quel est mon bénéfice en tant que bénévole, pourquoi voudrais-je participer? On voit donc peut-être une autre option là. Avec la NCUC, si vous avez un programme d'activité, je parle également de ce travail inter unités constitutives. Donc, à l'intérieur et entre les unités constitutives, vous avez beaucoup de bénévoles au sein d'un seul groupe et ce serait mieux d'avoir des activités conjointes qui vous donnent un sens d'appartenance. Rafik prend la parole. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je peux parler en arabe si vous voulez. Ce que je veux dire est qu'il y a beaucoup de membres, qui auraient besoin d'avoir un programme qui les réunisse, dans les activités qu'ils font. Je vous remercie de ces efforts et les individus eux-mêmes doivent penser à cela, ils pensent aux bénéfices. Moi, je pourrais me proposer en tant que bénévole pour travailler avec vous au sein du groupe, mais sans tirer un profit, sans rien qui garantisse que je vais vouloir venir. Quel serait l'intérêt pour moi de participer à ce groupe-là sans tirer un bénéfice ? Rafik prend la parole. Oui. Bon, Nadira, vous n'êtes pas un membre pour l'instant. Mais oui, notre travail principal porte sur la politique parce que c'est cela qui nous intéresse. Il y a des activités, il y a des choses qui se passent. On réalise d'autres activités. Par exemple, on a organisé le FCI du Nigeria. On a participé à d'autres réunions. Il y avait des personnes qui demandaient la permission pour pouvoir participer. Il y a eu un conseil concernant la protection des données et de la vie privée à Bruxelles. C'était un atelier auquel nous avons participé. Et on a même eu notre propre séance où on a amené des personnes. On avait un programme de participation pour nos membres. On a aussi participé aux différentes discussions qui nous intéressaient. Vous voulez plus d'activités? Et je le comprends, mais on est tout jeune. Ça fait 5 années qu'on a été créé. Je ne travaille pas pour l'ICANN. C'est ce que je fais dans mon temps libre. Donc, donnez-moi le temps, même si on avait le fond. On n'a pas les fonds pour tout faire, pour travailler dans l'espace de l'ICANN. On a l'argent pour travailler sur des questions plus larges. Donc, on essaie de faire grandir notre organisation. Mais le problème, on le sait, est le temps. Les individus ont différents intérêts. Ils peuvent être motivés par un intérêt ou un autre, mais les gens changent, leurs intérêts changent. Et c'est correct, c'est bien, on évolue. On a de nouvelles personnes qui se joignent à nous, de nouveaux membres, de nouveaux dirigeants. Et lorsqu'on se compare à d'autres groupes, vous allez voir qu'il y a des groupes où les membres sont toujours les mêmes. Des personnes qui participent, cela fait une décennie. Et nous, on a toujours de nouveaux membres. Les membres du comité exécutif n'ont rejoint le groupe que ça fait 2 ans. Il y en a qui appartiennent au groupe, ça fait 1 an et qui ont déjà des fonctions très importantes. Donc on travaille sur les nouvelles activités, mais on a également besoin du processus ascendant. Nadira prend la parole. Je voudrais faire la promotion de votre NCUC dans ce cas-là, parce que je fais partie du comité de nomination de la société civile. Comme Damac, qui a un comité consultatif multipartite, d'autres sommets tels que Net Mondial. Et à la NCUC, ils demandent cela, ils encouragent ce type de coalition. Donc ils font des appels à des organisations et tout le monde peut s'approcher de leurs dirigeants pour proposer des membres de la gouvernance du monde Internet élargi. Rafik prend la parole. On est également des membres de la NCUC. Oui, allez-y.
Bonjour à tous. Je suis analyste et boursier de Tunisie. Merci, Monsieur Rafik, pour expliquer et présenter la NCUC. J'ai juste une question. Je ne trouve pas vraiment. Je comprends pas vraiment la différence entre l'EMPOC et le NCUC et si l'EMPOC est à but non lucratif et le NCUC, vous avez dit que nous ne pouvons pas non plus être en tant que comme activiste des organisations civiles. La mission, est-ce que je vois pas que se superpose vraiment? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Rafik prend le micro. Question intéressante. Il y a une histoire, un historique derrière tout ça. Nous, on est plus large. Nous avons les associations à but non lucratif et les individus. Et nous sommes, on est dès l'origine. Alors, nous sommes plus larges. En 2010-2011, à NCG, vous pouvez avoir différentes unités constitutives. Pour l'instant, on en a deux. Et à ce moment, on voulait avoir une nouvelle unité constitutive qui représentait les inquiétudes des MPOC. On s'est dit, oui, d'accord, on souhaiterait représenter les intérêts des organisations à but non lucratif et leurs intérêts, c'est assez restreint comme mission. Et c'est pour cela que peut-être ils sont en train d'essayer d'élargir ça, justement. Je voudrais pas rentrer dans les détails de ça, mais ce que je voulais dire, c'est que on est assez large, on accepte tout genre de activistes de société civile, et notre mission et dans notre charte nous donne la possibilité de parler de beaucoup de sujets et d'essayer d'influencer les politiques. Alors en tant qu'organisation, on est active dans l'espace de gouvernance d'internet et dans la fondation, nous avons Wikimedia, on est des membres. Nous avons aussi beaucoup de membres du monde académique parce que c'est pas facile pour eux de trouver un espace à l'ICAN. Il y a beaucoup d'activistes, des voix au niveau mondial qui aussi sont des membres. Alors, on est assez inclusif. On se concentre sur la politique, mais on aborde des sujets comme le gouvernement d'Internet et d'autres sujets importants. Alors, si vous faites partie de la NCSG, vous pouvez faire partie d'une unité constitutive au niveau de l'administration, il n'y a aucun problème. Et on accepte les deux, des organisations et des individus au sein de la NCSG. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, désolé si je peux. Il n'y a pas de conspiration si on a des questions de trois personnes de la même région. Alors, un autre intervenant au micro. Il n'y a pas de conspiration, mais il vous demande ici parce qu'ils n'avaient pas compris Amena avant. Je voulais vous demander votre opinion sur qu'est-ce qu'on a est nécessaire pour que les sociétés civiles soient intéressées à l'ICAN. Rafik prend la parole. Très bonne question. Parce que si vous êtes, par exemple, une ONG intéressée dans les NCUC, intéressée dans l'informatique à l'ICAN, l'ICAN, il n'y a pas de politique pour le nom de domaine. Cependant, la politique de l'ICAN a un impact global. Je pense que c'est la seule politique, c'est la seule organisation au niveau structure qui élabore des politiques à propos des sujets d'Internet qui s'appliquent partout dans le monde. Il n'y a pas d'organisation comme ça ailleurs, et le nom de domaine, c'est une façon d'accéder au site web. Et par exemple, si vous souhaitez publier un contenu, par exemple, hébergement, on a besoin d'un nom de domaine. On a besoin de les faire accessibles tous les deux. L'ICAN n'aborde pas l'hébergement, mais c'est pour cela qu'il y avait un programme pour élargir le nombre de TLD. C'était très important d'avoir plus de TLD et pour notre région. En Afrique, il n'y en a pas assez. La plupart des TLD sont opérés en Amérique du Nord et en Europe. On a besoin d'élargir ça. Pourquoi? Pas pour avoir plus de business et d'unités commerciales, mais pour le faire plus abordable et accessible aux gens. Par exemple, si vous souhaitez avoir votre propre site web personnel, vous avez en avoir accès. Une autre chose, c'est un rapport avec la liberté d'expression, parce que garantir que vous avez le nom de domaine, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un utilise des processus qui existent, des IRP, les processus de résolution des conflits. Par exemple, quelqu'un peut réclamer que ça devrait être, ça c'est mon domaine pour la résolution des litiges. Si quelqu'un utilise ces processus pour vous enlever votre propre domaine, pour que vous puissiez pas vous interdire d'avoir votre liberté d'expression, par exemple, si vous utilisez une marque déposée, par exemple, pour commercialiser quelque chose, on essaye d'arranger cette situation. C'est important. Si vous vous intéressez aux droits de l'homme, vous pouvez participer de ces sujets. On ne leur demande pas de participer dans toutes les activités délicates. Ce n'est pas réaliste. Je ne peux pas tout suivre parce que ce n'est pas nécessairement intéressant pour moi et parce qu'on doit donner la priorité à certains sujets. Ce qu'on peut faire parfois pour certains sujets spécifiques, travailler avec certaines organisations. Par exemple, l'été dernier, il y avait un rapport d'un groupe de travail qui était sur les services d'anonymisation et des représentations fiduciaires. Et je pense qu'il y avait plus de 20 000 commentaires parce que les organisations qui n'avaient jamais participé à l'ICANN, ils ont trouvé que ce qui était proposé dans le rapport aurait autant d'impact pour eux. C'était très spécifique. Alors, s'il y a une recommandation qui est traitée par un groupe de travail très spécifique, ils travaillent tellement dur et participent tellement pour que les gens puissent s'intéresser. Et ce rapport était mentionné dans plusieurs médias qui avaient... à laquelle avaient accès beaucoup de gens. C'est important de participer parce qu'il y a un impact sur ça. Intervenant au micro. Adetola Sorkoustan au micro. Je suis boursier pour la première fois. Je comprends l'explication. Peut-être parce que pour l'instant, ce que vous êtes intéressé dans l'élaboration des politiques et pas dans la sensibilisation en elle-même. Mais si vous étiez intéressé dans la sensibilisation, essayez de discuter avec d'autres ONG pour qu'ils puissent faire partie de ces activités. Par exemple, si une ONG est intéressée par la pauvreté, prendre soin des enfants, d'autres ONG avec différents intérêts. Quelle est la présence d'Internet à, quelle va être, qu'est-ce que va faire la présence d'Internet pour certains d'entre ces ONG? Est-ce que ça va être pour les réfugiés dans les zones rurales, par exemple? Je voudrais dire aux ONG, venez à l'ICANN, participez. Comment ça marche? Ça, c'est ma question. Rafik au micro. Nous sommes réalistes. On ne peut pas dire qu'on va pouvoir attirer toutes les ONG du monde, parce que ce n'est pas vrai. Si on dirait ça, on serait en train de vivre dans un monde irréel. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour certains sujets spécifiques, vous avez besoin de contacter ceux qui sont intéressés et qui ont l'expérience et qui, eux, ils puissent participer. C'est pour cela que beaucoup d'efforts de sensibilisation sont déployés pour expliquer pourquoi c'est important. C'est pas juste augmenter le nombre de personnes. Quelqu'un a une question avant? Allez-y, Amar. Venez au micro, s'il vous plaît. C'est Amar au micro encore une fois, Omar. Et pour donner quelques exemples pratiques de ce qui font peut-être les acteurs des sociétés individuelles, des sociétés civiles sont intéressés pour participer. Par exemple, si une femme est battue et il y a un refuge pour elle, qu'est-ce qui peut attirer une femme dans cette situation pour des politiques d'Internet? Quel peut être l'intérêt pour elle? Ça, c'est une politique d'Internet délicate sur les fournisseurs des services proxy. Comment ça peut affecter quelqu'un qui est une femme battue dans un refuge? Par exemple, pour pouvoir quelqu'un qui cherche sa femme qui a été battue et qui peut être dans un refuge comme ça. Par exemple, dans un site d'enregistrement fiduciaire, peut-être ils ne peuvent pas écrire leur adresse parce qu'ils veulent s'assurer que les époux puissent trouver leur femme. Mais il y a le nom dans le nom de domaine des juifs, dans l'absence d'un service d'anonymisation, pourront trouver où se trouve l'adresse de ces refuges. Alors, heureusement, il y a des services d'anonymisation et des vies privées qui règlent tout ça. Mais pour cela, les organisations doivent avoir les services d'anonymisation. Il y a d'autres organisations civiles qui, pour les minorités ethniques dans les pays, qui ont besoin de services d'anonymisation. Et ça, c'est un des exemples pour où les questions de droits de l'homme apparaissent au sein de l'ICANN. Si vous analysez comment une organisation qui est dans la surface peut-être n'a rien à voir avec la politique d'Internet, mais que pour eux puisse avoir une présence mondiale et sur Internet et dans les réseaux sociaux et avec leurs propres règles et normes, vous devez vous inscrire et, par exemple, faire partie de Facebook, réseaux sociaux. Il y a des politiques qui affectent leur nom de domaine et leur présence sur Internet, même si ce n'est pas leur mission principale. Et Adetola dit merci, c'est clair maintenant. Merci. Je m'appelle Nomsa. Je suis boursière pour la première fois, newcomer. Nouveau venu. J'ai encore une question sur la confusion que ma collègue a mentionnée tout à l'heure en termes de... Par exemple, maintenant, je comprends mieux la différence entre les mécanismes ou comment est formé les membres entre les organisations à but non lucratif et non commercial, mais peut-être j'ai besoin de plus d'aide pour comprendre la différence entre les sujets que vous abordez, qui sont différents aux sujets que eux ils abordent. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples pour que ça soit plus clair pour moi? Rafik prend la parole. Je pense que vous êtes rendu compte que quand nous avons parlé des droits de l'homme, les raisons que moi j'ai données, que eux j'ai données. Et il faut comprendre pourquoi c'est plus critique. Historiquement, nous avons été ici pendant plus longtemps et pour les sujets civils, et on a une position plus développée. Pour être honnête, parfois je ne connais pas toutes leurs positions. Parfois j'essaye encore d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces cas-là. Partout dans le monde, nous avons participé dans des groupes de travail et des gens qui participent dans des groupes de travail, comme les gens de l'IRP, dès le début, sur les droits de l'homme, sur le développement et la diversité. Et je pense que on est plus ample parce que les gens de notre diversité ont des positions différentes. Par exemple, comme hier, vous êtes allé en séance sur l'intérêt public et il y a eu une discussion, un débat très, très fort parce qu'il y avait quand il y a des gens de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, c'est avec des contextes différents, c'est très difficile de se mettre d'accord et parfois il y a une opposition très forte. On essaie de travailler en coalition sur ces sujets. peut-être on essaie de participer de façon plus pratique dans l'élaboration des politiques parce qu'il y a un devoir de représenter les utilisateurs non commerciaux. On ne peut pas être leurs représentants et on doit être de plus en plus nombreux pour pouvoir dire qu'eux puissent exprimer pour qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent être traités, les sujets importants. Ce n'est pas juste la sensibilisation pour les membres de notre organisation, c'est comment nous pouvons améliorer notre façon de faire les choses, comment on peut ajouter à la diversité de notre existence. Parce que quand vous rajoutez des gens, ils amènent leurs inquiétudes, des nouvelles inquiétudes. Par exemple, il y a 2 ans, personne ne pensait à la transition des fonctions d'Yana et après, et c'est devenu un sujet très important. On a dû y passer beaucoup de temps. Est-ce que j'ai répondu à votre question un petit peu? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Intervenant au micro, votre explication, c'est excellente, mais ça va me prendre un petit peu plus de temps pour comprendre en détail. Rafik au micro. Vous inquiétez pas. Je sais que avec les nouveaux membres, il faut essayer de comprendre pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos inquiétudes, vos intérêts, et on peut le découvrir ensemble. Parce que je sais que c'est pas si facile. Vos propres intérêts, votre engagement, et voir quel est le bon endroit pour vous. Et mon travail, c'est vous aider à découvrir ça. Jenny au micro. Nous avons encore des questions. Juste pour vous dire et rajouter, quand on a discuté dans les journées des nouveaux arrivés et nouveaux arrivants, quand vous demandez sur les sujets dans lesquels on est en train de travailler, les sujets, je vais pas dire la même chose, mais c'est les sujets de l'ICANN, c'est la façon dont les différentes unités constitutives, communautés, les abordent. Quand on parle de nos intérêts individuels, les sujets individuels, les sujets dans lesquels vous êtes intéressés, vous, en tant que nouveau arrivant, vous avez vos propres intérêts et c'est de cette façon que vous allez participer. Parfois, il s'agit de trouver un sujet qui vous intéresse. Est-ce que ça fait plus de sens